Quoi?
On assimile. Qu'est-ce que c'est qu'assimiler? Nous savons très bien dans l'ordre de la vie végétative. Au début du repas, les aliments sont dans le plat ou dans votre assiette. À la fin du repas, ils sont plus dans l'assiette. Il y a eu un passage extraordinaire. On n'y pense pas, on fait ça tout à fait couramment. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup de voir ça. Au début du repas, les assiettes sont pleines. Et puis, à la fin du repas, où est-ce que c'est passé? Ah oui, on va vous expliquer. Vous avez mangé le tube subjectif, l'estomac, tout. Mais attention, attention! Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui était à l'extérieur est devenu à l'intérieur. Du moins, je souhaite. Quelque chose qui était à l'extérieur est devenu à l'intérieur. Et ce qui est intérieur, certaines choses, vous les assimilez, et d'autres choses, vous ne les assimilez pas. On fait une certaine abstraction. Et le jour où on ne fait plus cette abstraction, alors c'est l'intoxication. On est intoxiqué. On garde tout. C'est curieux ça. Le vivant assimile certaines choses, rejette d'autres choses. Il le fait sans y penser. Il vaut mieux. Et ça lui échappe complètement. Le jour où il est malade, on lui dit, écoutez, il y a des choses qui devraient être rejetées, qui ne le sont pas, et là ça ne va pas du tout. C'est curieux, hein? Le vivant de vie végétative assimile. Quand vous êtes très fatigué, on vous impose un régime. Ne prenez pas ça, c'est mauvais pour vous. Prenez que des choses que vous pouvez assimiler facilement. L'intelligence fait la même chose. Elle assimile et elle rejette. Il y a des choses que l'intelligence n'assimile pas, elle n'assimilera jamais. Donc il y a un passage entre les choses sensibles que je touche et ce que j'assimile, ce que je suis capable d'assimiler. J'assimile toujours sous le mode universel. J'assimile le genre, la différence spécifique, l'espèce, l'accident et le propre. Et je ne m'en aperçois qu'aux effets. Quand je me mets à penser, je suis incapable d'être conscient de cette assimilation. Et c'est parce que justement, j'en ai pas conscience que certains philosophes refusent. Ils disent, l'intelligence, c'est le reflet. Je prends exprès cette théorie-là. Garaudy dit ça. Il dit ça quand il essaie de comprendre un peu l'épistémologie de la connaissance marxiste, de la dialectique marxiste. Il dit, l'intelligence, c'est le reflet. J'aime de le voir chez Garaudy. Je dis alors quoi? Il n'a jamais rien compris. Puisque c'est le reflet. Alors le reflet, c'est justement quand on n'a pas compris. On reflète. On est un miroir. Êtes-vous un miroir? Non. Quand on comprend, on assimile. Et quand on assimile, on transforme. Puisqu'il y a un discernement. Vous transformez de cinq manières, sans le savoir. C'est invraisemblable, ça. Vous transformez de cinq manières. Vous transformez selon une manière générique, selon une manière spécifique. Ça, c'est très rare. L'espèce, le propre, l'accident. Et si on était très attentif, on verrait que chacun d'entre nous, nous n'assimilons pas de la même manière. Il y a des gens qui sont sensibilisés à l'aspect générique, d'autres à l'aspect propre, d'autres à l'accident. C'est très curieux. On capte dans l'aliment quelque chose. Vous savez, quand on vous sert une assiette de légumes, hein, regardez la manière différente des uns et des autres. Certains, c'est les carottes. Puis après, la carotte, c'est autre chose. Et puis, j'énumère tout ce que vous voulez. Enfin, vous picorez différemment. Chacun picore à sa manière. Sauf si on lui a appris une méthode diététique qu'il faut prendre d'abord ceci, puis cela, puis cela. Alors, la logique est passée. Alors, ça se fait parfaitement selon un ordre parfait. Et on est très sérieux en faisant ça. Autrement, si on picore comme un bon petit animal, sans logique. On dit pourquoi ? Oh, c'était le rouge qui m'attirait. Oh, c'était le vert. C'était le blanc. C'est très curieux, l'intelligence. Elle picore comme ça, dans la réalité. Certains saisissent l'aspect générique. D'autres, l'aspect propre. D'autres, l'aspect accident. C'est toujours la même réalité. C'est l'homme, c'est cet homme, c'est ce chat particulier, c'est ce cheval. Parce que dans l'homme, tout ça est présent. Dans l'animal, tout est présent, sauf les deux. Ça, c'est caractéristique à l'homme. Mais à l'écart de toutes les autres réalités, vous avez trois manières de picorer. Il y a des gens qui sont... C'est extraordinaire de les voir. Ah, c'est l'accident, c'est les choses extérieures. Ils sont séduits par l'extérieur. Parce que ça bouge. C'est le procédé des réclames. Les réclames ne sont jamais au niveau générique. Ah, vous seriez un imbécile de faire des réclames du genre. Vous faites des réclames de l'accident. Et des accidents, c'est mieux. N'est-ce pas ? C'est la réclame des accidents. C'est-à-dire, ça se coupe de mille façons. Ça, c'est séduit. Vous voyez ça tout de suite. L'aspect générique, ah, il faut des gens qui réfléchissent. Et comme la plupart des gens ne réfléchissent pas, c'est par l'accident. Très peu le propre. Oh, de temps en temps. De temps en temps, vous arrivez à de l'accident à émerger sur le propre. Alors vous avez la réclame type. Une fois que vous l'avez, vous pouvez la présenter différemment. Mais ceci, c'est pour vous montrer que l'intelligence saisit la réalité de diverses manières. La même réalité. Et chacun d'entre nous. La connaissance intellectuelle est donc universelle. Elle a cette auto-lucidité. Et elle connaît la signification des choses. Ah ! Elle connaît la signification des choses. Elle veut connaître la signification des choses. Et c'est pour cela que je ne peux pas m'arrêter à l'accident. Et c'est pour cela que je cherche le propre. Et c'est pour cela que je cherche le genre. L'accident, ça enveloppe, d'une autre manière que le genre, ça enveloppe de l'extérieur. Mais ça n'a pas beaucoup de signification. Ça a une signification, mais pas beaucoup. Le propre en a beaucoup plus, et le genre beaucoup plus. C'est pour ça, quand mon intelligence cherche vraiment à connaître, elle élague les accidents. Elle cherche le propre, et elle veut aller jusqu'au genre. Par de multiples expériences, elle sait qu'elle n'arrivera jamais la différence spécifique. Donc, vous voyez bien là que l'intelligence a ses modalités. On en verra d'autres encore modalités. Je vous donne les premières fondamentales. Tout homme bien né pense comme ça. Impossible autrement. Vous voyez, c'est quelque chose de plus radical que la diversité des langues. Parce que ça se retrouve dans toutes les langues. Donc c'est plus radical. C'est vraiment quelque chose de très, très premier dans mon intelligence. Et c'est pour ça que j'en ai même pas... Je ne m'en aperçois pas. J'ai posé une fois la question à un psychanalyste, très distingué. J'ai dit, est-ce que vous pourriez détecter dans un être humain le premier moment où il atteint l'universel? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Il m'a d'abord regardé avec curiosité, il ne s'était jamais posé la question. Dans son analyse, c'est pourtant bien intéressant. Parce que quand il atteint l'universel, il atteint quelque chose de spirituel. Et pour vous, c'est très important de savoir si votre malade a atteint du spirituel ou est toujours resté dans le passionnel. Il n'y a plus jamais pensé. Parce que les analyses se font du côté, justement, passionnel, du côté affectif, et non pas du côté de l'intelligence. Alors évidemment, comme il n'y avait jamais pensé, il n'a pas pu le dire. Je lui dis, maintenant, vous allez y penser, hein. Vous penserez à moi, et vous penserez que chercher le premier moment où l'intelligence a découvert la signification. C'est très difficile dans un monde cultivé comme le nôtre. Parce que qu'est-ce que fait l'enfant en premier lieu? Il apprend des mots et non pas le regard sur le réel. Il apprend des mots. Or, les mots sont tout de suite universels, mais l'enfant ne sait pas ce que ça veut dire. Il retient des mots, mais il ne pense pas la signification du mot. Il met très longtemps avant d'apprendre la signification du mot. Nous sommes en face d'une quantité de mots que nous avons appris, qui, très souvent, ont ralenti la naissance de la vie intellectuelle, l'émergence de la vie intellectuelle. Ils ont ralenti le développement intellectuel. Parce que les mots, je les retiens par la mémoire, l'imagination. Mais je ne les pense pas toujours. Et donc, l'intelligence, en retenant du moins, l'homme en retenant des mots, ne fait pas travailler son intelligence. Et son intelligence peut être comme engourdie, et complètement engourdie. Il saura des mots, mais il ne saura pas la signification. Donc il ne pense pas. Il faut bien voir la différence entre l'universel dans les mots et l'universel dans la pensée. Le mot exprime ce que je pense normalement. Sauf lorsque vous récitez une leçon, alors vous récitez des mots sans savoir ce que ça signifie. C'est une récitation, tout simplement. L'intelligence apparaît au moment où l'universel n'est plus seulement attaché aux mots, mais attaché à une pensée. Et alors à ce moment-là, il implique toujours une signification. L'intelligence me permet de comprendre ce qu'est la réalité, de saisir sa signification. Et elle saisit cette signification selon un mode universel. Et elle la saisit selon ces cinq modalités que nous avons vues. Je vais m'arrêter maintenant 5 minutes, pas plus, sauf si c'est des quantités de questions, et puis nous verrons la genèse de la connaissance intellectuelle, qui est quelque chose de très intéressant et très important. Le propre, c'est quelque chose qui manifeste l'intelligence. Et c'est pour ça que je dis le propre. Parce que le propre, c'est quelque chose qui manifeste que nous pouvons expérimenter. Et c'est pour ça que je dis que c'est le sourire qui est le propre de l'homme, étant donné que l'animal ne sourit pas. Et pour manifester, par exemple, quand on souffre, que la souffrance est assumée par l'amour, on sourit. C'est quelquefois pas commode, mais on sourit. Pourquoi les sculpteurs du XIIe siècle représentaient le Christ sur la croix en souriant? Pour montrer que l'amour assumait la souffrance. Seul l'homme est capable de porter la souffrance avec amour. Une bête est traquée. Et quand on souffre de trop, on est comme traqué. On est comme assommé. On ne sourit plus. Oui, c'est quelque chose de très beau, le sourire, au plan philosophique. C'est quelque chose de très grand. Des hommes qui ne sourient plus, il y a quelque chose qui leur manque. Ça, c'est visible, il y a quelque chose qui leur manque. Il y a ce contact intellectuel, intelligent, qui se fait par le sourire. Alors, on regarde toujours le sourire de l'enfant, mais on devrait aussi regarder le sourire de l'homme ou de la femme qui souffre. Chose de très très particulier. C'est pas le gros rire. Impossible. Tandis que le sourire exprime que l'intelligence est là qui est arrivée à assumer, à porter du dedans. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est le propre de l'homme parce que ça manifeste l'esprit. Ça manifeste l'intelligence victorieuse de situations critiques, de situations douloureuses. Où la frontière entre la logique et la critique, ça c'est pour la fois prochaine. Non, pas la fois prochaine, la fois encore après. Hein. Mais parce que c'est important, c'est très important, c'est pas que ça veut dire pas important, mais je demanderai à la personne de reprendre son bien et de le garder quand on verra la logique et la critique. Parce que ça, c'est très important de le garder. Si je le prends, moi, il y a des chances que ça disparaisse. Alors, jusqu'à quel point pouvons-nous faire confiance à la connaissance sensible? La critique l'intelligence. Et ira jusqu'à la critique de la connaissance sensible. Je peux critiquer la connaissance sensible, mais pas directement par la connaissance sensible. Je critique la connaissance sensible par la connaissance intellectuelle. Comme je peux critiquer la connaissance affective par la connaissance intellectuelle. Mais la connaissance intellectuelle va jusqu'à la connaissance sensible. Je critique ma sensation de toucher. Je peux toucher ça rapidement, et puis je peux m'arrêter et me dire, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je peux faire confiance à mon toucher? Mais qu'est-ce qui viendra corriger mon toucher? Vous allez vous mettre à lécher pour voir si c'est plus fort, en disant, oui, la langue, c'est plus sûr, hein, c'est plus sûr que le toucher. C'est vrai, de temps en temps, c'est plus fin, il y a une finesse plus grande. Et donc il y a des choses, des aspérités que je ne sens que lorsque, de fait, c'est dans ma bouche ou lorsque je me mets à toucher avec la fine pointe de la langue. C'est très curieux ça. Alors, un sens corrige l'autre sens. Grâce à l'intelligence qui les unifie. Et donc la critique de la sensation se fait par l'intelligence en se servant des sens. Je corrige un sens par un autre sens. Ou je corrige un sens par quelqu'un d'autre qui est à côté de moi. J'ai vu là-bas quelque chose d'assez extraordinaire. Comme je suis un peu myope, je ne vois pas très bien, n'est-ce pas ? Alors j'ai à côté de moi quelqu'un qui a un regard d'aigle, fini, regardez. Oui, ce que vous avez vu, c'est bien ça. Et c'est vrai, on corrige une vision par une autre vision. On fait ça couramment. En auto, quand on conduit, qu'on voit quelque chose, on a à côté de soi un peu une vue plus faible, on a à côté de soi quelqu'un, on dit, est-ce que c'est bien ça ? On corrige tout de suite, et donne l'importance. C'est une correction qu'on fait. Puis alors, il y a toutes les corrections que les savants peuvent faire, et ainsi de suite. Mais on corrige la sensation par une autre sensation. Donc il n'y a pas de correction immédiate. C'est l'intelligence qui corrige mes sensations et qui se sert d'autres sensations pour les corriger. Pourquoi ? Pour connaître la signification profonde des choses, Descartes critique-t-il la connaissance sensible ? Alors là, ça, c'est du Descartes. Parce que pour Descartes, rien n'est plus certain que la pensée et les idées innées. Seul ennui, c'est qu'elles ne sont pas innées, ce que nous allons voir. Pour Descartes, il y a des idées innées. Le petit enfant, dans le berceau, il a des idées innées, ce que je n'ai jamais constaté. Mais Descartes ne l'a pas constaté, parce que la constatation serait la sensation. Donc, il l'a rêvé. Il considère que son rêve est plus certain que les sensations. Descartes prétend avoir un rêve dans lequel il a saisi la profondeur de l'intelligence et que cette détermination d'intelligence est donnée par des idées innées. Je ne suis pas cartésien. Et je trouve que c'est un peu terrible, Descartes. Les idées claires, c'est pas toujours les plus profondes. Il y avait un bon père dominicain, le père Gardeil, qui a écrit un livre qui est très beau, La structure de l'âme. Et le père Gardeil, en écrivant ce livre, dans sa préface, dit il y a deux manières d'exposer un problème, d'une manière claire et superficielle, d'une manière profonde et obscure. Je choisis la seconde. Alors, à partir de ce moment-là, évidemment, il échappe aux critiques. Toujours prendre ce truc-là, hein, c'est un très bon système. Quand vous exposez quelque chose, dites, il y a deux manières d'exposer. Une manière claire et superficielle. Alors, Descartes est bien placé. D'une manière profonde et obscure. C'est vrai la plupart du temps, mais ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'on peut, quelquefois, saisir en profondeur quelque chose et l'exposer clairement. Tout dépend de la manière dont vous avez réfléchi. Pouvez-vous réexpliquer la différence entre l'espèce et la différence spécifique ? Très juste, très juste. J'ai été très vite, exprès. Parce qu'il n'y a pas de différence, vous comprenez ? Oui, il y a une différence. Il y a une différence, attention. C'est que l'espèce, donc, c'est uniquement par rapport à l'homme, par rapport à vous. Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes un animal. Je m'excuse. Mais vous êtes des animaux. Je le suis aussi. Nous sommes dans l'arène. Nous sommes des animaux qui broutons de temps en temps. La bonne salade. Qui sont carnivores par d'autres moments. Avec de bonnes dents. C'est vrai, on est un animal. On respire comme un animal. On dort comme un animal. Il y a tout ça en nous. Ça. Aucune difficulté. Personne ne nous sent. Et puis de temps en temps, il y a en nous une émergence spirituelle, artistique, poétique, affective, j'aime, spirituellement. Je je prends au point de vue humain, je ne parle pas au point de vue chrétien. Je raisonne. Donc, il y a une émergence rationnelle. Et rationnel s'oppose tout de suite à irrationnel. Tout ce qui n'est pas rationnel est irrationnel. Tout ce qui n'émerge pas est irrationnel. Donc, je saisis cette différence spécifique en moi. Je suis capable de penser. Je suis capable d'aimer spirituellement. Je fais la différence entre la représentation imaginative et la signification, ce que nous avons essayé de faire. À ce moment-là, vous saisissez ce qu'est le rationnel. Et vous voyez que le rationnel vient déterminer l'animal, parce que l'animal est rationnel ou irrationnel. Vous divisez l'animal en deux. La différence spécifique divise le genre. Le genre connaît une très grande extension. Le genre est très potentiel. Et donc il demande d'être actué. Il demande d'être déterminé. Et il est déterminé par la différence spécifique, rationnelle. La différence spécifique positive. La différence spécifique négative, irrationnelle. Et le genre déterminé par la différence spécifique donne l'espèce. L'espèce, c'est tout simplement la synthèse du genre et de la différence spécifique. Donc, l'espèce a la même extension que la différence spécifique. Mais l'espèce a une compréhension plus grande, puisqu'il a la compréhension de la différence spécifique et du genre. L'espèce, l'homme, il comprend l'animal et le rationnel. Tandis que la différence spécifique s'oppose à irrationnel. Vous voyez ? C'est la synthèse des deux. Bon, je vais continuer. Un aspect très intéressant au point de vue critique et qui est aussi quelque chose que je dois essayer de saisir le plus vite possible dans la critique. Qu'est-ce que je constate ? C'est que je progresse dans mes connaissances intellectuelles. Normalement. Pas seulement quand je suis à l'école, quand j'enseigne. Quand je parle, quand je fais des rencontres avec certaines personnes qui sont particulièrement intelligentes. L'autre jour, j'ai eu comme ça la très grande joie de parler pendant une heure et demie avec un grand peintre. C'est merveilleux. C'était le soir du dimanche, il m'avait demandé de venir. Parce qu'il avait des tas de problèmes. Et moi, j'interrogeais. Puis après, je lui demandais de me montrer ses tableaux. Parce qu'il était dans son atelier, dans le sein des saints. Puis, je le laissais parler sans lui demander d'expliquer. Il était tellement rempli de son sujet. Bon, on sort de là, ayant l'impression d'être beaucoup plus intelligent. Une heure et demie avec un grand artiste, c'est beau. Une heure et demie avec un grand savant, c'est grand. On apprend tout le temps. Et surtout dans un dialogue personnel, où on peut interroger, on peut essayer de voir, et puis quand on connaît un peu la personne, on progresse. Je crois qu'on progresse tout le temps au point de vue de l'intelligence. Ah, il peut y avoir une fatigue, une grande fatigue cérébrale qui arrête. Mais ce n'est pas l'intelligence qui est fatiguée, c'est le corps. L'intelligence, elle, nous verrons ça progressivement, elle n'est jamais fatiguée. C'est pour ça que c'est le grand moyen de rester jeune, c'est de cultiver son intelligence. Ça, c'est le grand moyen. C'est pas de façon artificielle qu'on reste jeune, mais du côté intérieur. Parce que l'intelligence n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. En tant qu'intelligence. Alors, si vous cultivez votre intelligence, dans les différents domaines où vous pouvez la cultiver, si vous maintenez en vous une curiosité intellectuelle, vous ne vieillissez pas. Ah, votre corps vit, c'est sûr. Votre corps vit, les rides s'accumulent, c'est sûr. Mais vous luttez contre un vieillissement précoce, contre un engourdissement précoce. Des gens qui ne pensent pas s'engourdissent. Et très vite, ils viennent des petits vieux. Parce que l'intelligence n'est pas là pour tout le temps réanimer. C'est très curieux. Il y a un progrès dans la vie de l'intelligence. Ça, je crois qu'on ne peut pas nier. Quelqu'un qui apprend une langue progresse. Quelqu'un qui apprend les mathématiques, c'est très bien qu'au point de départ, c'est pas commode. Puis petit à petit, il progresse. Toutes les sciences sont comme ça. Quelqu'un qui apprend la philosophie, ce que nous faisons. Bon, au début, c'est pas drôle. Il y a des quantités de termes difficiles. J'essaie d'employer le moins possible, mais il y a quand même des quantités de termes difficiles. Puis, on a de la peine à réfléchir. Puis au bout d'un certain temps, on entre dedans. Très curieux, il y a comme des paliers. On voit très bien la différence entre comprendre quelque chose, j'ai saisi, je suis incapable de le répéter. Incapable. Ça arrive très souvent, ça. C'est normal. Tant qu'on ne connaît pas parfaitement, on ne peut pas redire. On assimile. Première phase de l'intelligence, elle assimile. On assimile avec joie, oui, je vois bien ce que vous dites, oui, ça correspond à toute mon expérience, c'est vrai. Je suis incapable de le répéter. Ne vous inquiétez pas, petit à petit, vous pourrez arriver à le répéter. Si, dès le point de départ, on était capable de donner un cours dans une matière qu'on ne connaît pas, ça vous empêcherait de travailler. Vous n'avez pas besoin de travailler. Ça demande beaucoup de travail pour assimiler plus profondément et pouvoir communiquer d'une manière qui semble la manière la plus astucieuse qui soit. C'est un fait. Je crois qu'on ne peut pas le nier, celui-là. Que l'homme est capable d'apprendre la grammaire. C'est-à-dire que c'est le propre de l'homme d'apprendre la grammaire. D'apprendre ou de progresser dans la philosophie. Ça aussi, c'est le propre de l'homme. L'homme progresse dans la connaissance philosophique. L'homme progresse dans les connaissances mathématiques. Il faut un peu de loisir pour pouvoir connaître suffisamment et progresser. Alors, est-ce que je peux préciser l'itinéraire de ma pensée? Je me place à un point de vue philosophique. Hein. On pourrait se placer à un point de vue ensuite mathématique ou poétique. On verra du reste. Alors, je me place à un point de vue proprement philosophique. Personne d'entre nous, je présume, j'ai eu le soin tout à l'heure de vous le dire, personne d'entre nous ne peut dire le moment où l'intelligence en lui s'est éveillée. Je ne crois pas. Je crois que l'éveil de notre intelligence s'est fait dans les ténèbres. L'éveil de notre intelligence s'est fait dans l'obscurité. L'éveil de notre intelligence est fait d'une façon très confuse, un brouillard matinal très très fort, très puissant, qui petit à petit, grâce à quelqu'un qui était proche de nous, à quelqu'un qui nous aimait, qui nous parlait, qui nous réveillait, on dit tiens, je crois que maintenant ça y est, J'ai pensé. Vous ne voulez pas. Maintenant, on se le dit. Hein. Mais quand vous avez commencé à penser, ça vous a semblé la chose la plus normale. Vous avez répété ce qu'on a dit, et vous avez répété ce qu'on a dit d'une façon intelligente. Oui, vous avez répété, c'est sûr. L'homme est un animal qui imite. Alors, est-ce le propre de l'homme d'imiter? Je ne crois pas. Je crois que l'animal, tout court, imite aussi. Mais l'homme imite consciemment. Alors là, c'est le propre de l'homme, d'imiter consciemment. Je crois qu'à un moment donné, on s'est mis à penser, ça ne se rappelle plus du tout, peut-être que notre mère a retenu les premières paroles profondes que nous avons dites, et qui étaient des paroles vraiment admirables et très intéressantes. Je me souviens, ça m'intéresse toujours, quand les mères disent ça, c'est toujours très intéressant. C'était à Paris, quelqu'un que je connaissais bien, qui me parlait de l'intelligence de son fils avait 40 ans à ce moment-là, en me disant qu'il était remarquablement intelligent, il l'avait remarqué quand il était tout gosse. Il dit, tiens, à quoi ? Alors, écoutez, je vais vous donner un exemple, je vais vous dire un fait qui m'a beaucoup intéressé. Il avait 4 ans, ce gosse. Sa mère lui sert sa soupe, en bonne mère. Puis, elle voit le petit bonhomme, tout songeur. 4 ans. Sa méditation. Sa mère lui dit, mais, prends ta soupe. Prends ta soupe quand elle est chaude. Bonhomme ne bouge pas. Tu penses à quoi? Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Pas mal. Question d'un gosse de 4 ans. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors, la mère sourit du sourire de Sarah en disant, mais prends ta soupe, elle sera froide quand tu découvriras l'éternité. Le gosse continue, sans tenir compte absolument de ce que sa mère dit. Sa mère trouve que le meilleur moyen, c'est de plus faire attention. L'odeur de la soupe doit éveiller certaines glandes et donc permettre au gosse de ne plus penser à l'éternité et donc d'être en appétit direct vis-à-vis de la soupe. Au bout de quelques minutes, la mère revient, le gosse prenait sa soupe. Alors la mère lui dit, peut-être qu'elle n'aurait pas dû le dire, mais ça fait rien, elle le dit. Alors tu as trouvé? Et le gosse dit, oui. Et la soupe était encore chaude. Le gosse dit, oui. Il prend son rond. Elle dit, maman, l'éternité, c'est ça. Il fait le tour du rond. Sa mère a gardé ça dans son cœur. Ça, c'était très fort. Alors, elle était très heureuse de me dire, qu'est-ce que vous en dites? Je dis, oui, c'est très fort. La première image de l'éternité, c'est le cercle. Parce que l'alpha et l'oméga se touchent. Le point de départ et le terme se touchent. Et c'est ça l'éternité. C'est qu'il n'y a pas de différence entre le point de départ et le terme. Tota, c'est saint Thomas qui dit ça. Pas le gosse de 4 ans. Tota simul. C'est-à-dire tout entier dans la simultanéité. Tota simul. C'est très beau. Alpha et oméga. Or, au point de vue image, seul le cercle donne l'image de l'éternité. Puisque le point de départ et le terme se rejoignent. Donc ce gosse avait découvert m'éternité. Il se posait la question. Je demandais à la mère si avant, elle avait vu des petits faits comme ça. Elle avait dit non. C'est très beau à 4 ans. Un éveil de l'intelligence. Certains psychologues disent que ce n'est qu'à 14 ans que l'âge de raison commence. Ces psychologues, sans doute, n'ont interrogé que des enfants malheureux. Tandis qu'un enfant heureux est beaucoup plus vite intelligent. S'il aime sa mère, et même, j'allais dire, s'il prie, il y a un éveil de l'intelligence qui se fait beaucoup plus vite. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. L'enfant fréquente sa mère et il participe à l'éveil intellectuel de sa mère. Il fréquente dans sa foi Dieu, le Christ. Et il y a quelque chose qui s'éveille. Et je crois qu'en effet, il y a un éveil plus rapide. Mais nous ne savons pas quand s'est éveillée notre intelligence. Donc, on est obligé de le reconstituer. Et je dis bien, je le reconstitue. Parce que maintenant, ça n'a plus d'intérêt, vous comprenez ?